Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Et c'est tout. Ouais, c'est tout, parce que à mon avis, nos compagnons ont dit « Oh là là, ça va être le test de Sekiro, là Ouais non, les deux, là, ils vont pas arrêter de parler, on va se faire chier, donc non, on vient pas. »
Voilà. Ils ont fait une petite grève improvisée.
Donc, surtout qu'en plus, c'est les deux pipelettes du podcast qui vont faire le test, donc du coup, on risque d'y passer un moment, quoi, je pense, hein. N'est-ce pas, TH?
On va essayer quand même d'être concis pour le bien de nos éditeurs.
Mais bon, il n'y aura pas que le test de Sekiro cette semaine, on va également vous parler de ESAT. On évoquera Residence of Evil, Chernobylite, le mod 7 qui passe en HD, Cuphead qui a fait un patch qui a l'air fort sympathique, et enfin, on terminera par l'annonce de Star Wars Jedi Fallen Order, une annonce qui, ma foi, était bien pourrie, mais qui a des bonnes nouvelles à l'intérieur. Donc, on leur pardonnera cette annonce qui, bon, soyons honnêtes, ATH, c'était quand même un peu moisi. J'ai l'impression que Electronic Arts n'apprend pas, mais voilà.
On en parlera pendant le sujet, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus un peu.
Allez, ATH, on va commencer par un prototype. Ce prototype, c'est un jeu qui s'appelle ESAT. C'est fait par un Gugus, depuis pas très longtemps apparemment. Je voulais juste parler de cette news pour vous inciter aller installer ce proto. Très clairement, il n'y a pas grand chose, c'est même pas vraiment un jeu en fait, c'est plus de l'exploration d'environnement avec un ou deux puzzles peut-être à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer ça, parce que regardez ce qu'un mec tout seul arrive à produire aujourd'hui en très peu de temps. C'est vraiment très très impressionnant, et pour ma part, ça me donne envie de voir quel jeu il va faire avec ça. Il y a un petit air de Tomb Raider et de Shadow of the Colossus là-dedans, je trouve, un peu mélangé. Et ma foi, ça fait très très envie.
Ouais, c'est clairement ça. C'est même Tomb Raider et Ico, tu sais, l'espèce de château en décrépitude. Après, c'est un mec qui est tout seul. Il y a très peu de moyens, donc il faut pas s'attendre non plus à avoir Red Dead Redemption à l'écran. S'il peut avoir 4, 5, 6 personnes derrière en plus pour commencer à proposer un projet sérieux, ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vu qu'il a pas de, entre guillemets, de contraintes commerciales derrière, qui s'inspire vraiment de Tomb Raider et d'Ico, mais sans vraiment aller dans l'action des derniers Tomb Raider, et plutôt d'aller vraiment dans quelque chose de puzzle. C'est-à-dire que le jeu, c'est un picturesque open world puzzle. Donc, l'accent va être mis sur vraiment le dépaysement, le fait de découvrir un endroit totalement dévasté. Et puis aussi, vraiment, si il peut insister sur les énigmes, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, je pense.
Oui, je pense que des jeux d'action, on en a assez comme ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. En fait. C'est pas que le genre de jeu d'action, en fait, me déplaise, bien au contraire. C'est juste que je trouve que on en a beaucoup, comme tu le dis, donc s'il pouvait aller dans une autre direction, proposer quelque chose de, j'aime pas dire le mot, mais de plus artistique, entre guillemets, ça pourrait être sympa, quoi.
Allez, on va enchaîner sur une copie chinoise, c'est Residence of Evil. On en avait déjà parlé ici il y a un moment déjà. Il me semble que ce qu'on avait dit à l'époque, c'était sérieux les mecs, Residence of Evil... À un moment donné, voilà quoi, c'est pas ça qui va vous protéger des avocats de Capcom s'ils décident vraiment d'aller après vous. Surtout que là, bon, ils ont publié une démo. Je vous mettrai également un lien vers la démo, mais aussi vers une vidéo de gameplay pour ceux qui n'auraient pas le temps. Et ma foi, oui, c'est Resident Evil 1, quoi. Voilà. On va pas se cacher derrière son petit doigt, là, c'est le manoir de Resident Evil. Bon, ok, ils ont changé l'agencement des pièces, mais c'est le manoir de Resident Evil. Après, par contre, moi je dis chapeau bas pour toute la partie technique du jeu, c'est magnifique. Ça prouve encore une fois que le précalculé, quand c'est bien fait, ben ça peut avoir un super rendu, même quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et voilà, les créateurs de jeux, si vous pouviez vous inspirer de toute la partie technique de ce projet, ma foi, je pense que vous pourriez produire des jeux super beaux. Donc, ATH, sinon, à part ça, la copie chinoise, on en pense quoi?
Bah, ils auraient pu faire pire, hein. Ils auraient pu appeler le jeu Alone with the Evil, tu vois, par exemple. Alors là, pour bien avoir des problèmes avec tout le monde, je pense que ça aurait été parfait. Mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est assez propre. Moi, ça me rappelle vraiment les souvenirs du remake qui avait été fait sur GameCube, puis après qui est sorti un peu sur toutes les plateformes du premier Resident Evil. qui reprenait ces angles de caméra là avec ces effets de lumière, et je trouve que c'est vachement joli, mais t'as vraiment l'impression d'être vraiment dans le manoir Spencer du premier jeu, sauf que entre temps il a changé de décorateur quoi. Donc ça fait la copie chinoise, mais moi j'aimerais vraiment en fait que eux ils essayent de développer leur propre jeu avec leurs propres univers derrière, de changer le nom pour pas que ça fasse trop de problèmes par la suite, et ça peut potentiellement donner quelque chose d'assez intéressant, surtout que le gameplay en général, et même dans les premiers Resident Evil, c'était pas un peu le point fort du jeu. Donc là, s'ils peuvent, tu vois, plus miser sur une ambiance, pourquoi pas mettre des énigmes plus intéressantes que les jeux de Capcom, ça serait une petite claque qu'ils mettraient aussi en passage de manière très gentille. Mais voilà, s'inspirer du jeu de Capcom, parce que je pense que comme tout le monde, c'est une référence. Après, voilà, faut pas aller dans la copie bête et méchante, parce que ça n'apporte rien.
Parce que là, si vous voulez, on se moque depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment parce que quand tu vois le truc, même si c'est super beau, enfin, tu vois qu'il y a du taf derrière, tu vois. On se moque, mais c'est vrai qu'il y a un taf derrière, enfin, faut pas exagérer.
Bien sûr.
Mais quand tu vois que ce sont les mêmes transitions pièces, et que tu vois que c'est la même animation, que c'est les mêmes bruitages, tu fais, mais sérieux, les mecs, quoi, vous cherchez la merde, là, franchement, c'est, arrêtez, quoi. On voit un peu ce que vous avez le talent pour faire des trucs cool, faites autre chose, quoi.
Non, mais c'est exactement pareil qu'avec le, tu sais, le remake du premier Metal Gear qu'ils avaient fait sur Unreal Engine 4. Moi, je me dis, les mecs comme ça qui ont un talent derrière, c'est dommage qu'ils perdent leur temps en fait à faire des choses comme ça, parce que tu sais très bien que derrière il va y avoir des problèmes.
Ouais, parce qu'encore si t'avais eu l'autorisation du créateur pour faire ton jeu, ok, au moins t'es sûr que ton projet il va pas se faire squeezer après 2 ans de taf pour rien. Mais là très clairement, moi je pense que ça va finir comme ça, c'est-à-dire que dès que le projet va être un peu trop gros, t'as Capcom qui va arriver avec ses gros sabots, qui va leur dire bon les gars, c'est pas parce que vous avez changé 3 lettres dans le titre que ça va changer quoi que ce soit sur le fait qu'on va vous envoyer nos avocats au cul quoi.
Mais ne serait-ce que rien que les angles de caméra avec le petit chandelier, les gens quand ils voient ça, ils ont même pas besoin de dire le titre, ils disent attends, Capcom ils font un remake de Resident Evil encore ou c'est comment? Et puis après là tu vois, tu dis ah mais non, en fait c'est une contrefaçon, voilà, aller dans une autre direction, parce que clairement ça passe entièrement,
surtout
en fait.
Que je suis pas convaincu de l'intérêt d'un pseudo remake alors qu'il y en a déjà eu un qui est super beau, surtout que ce remake là en plus avec tu sais les méthodes pour améliorer les textures actuelles etc, c'est pas comme tu sais par exemple Resident Evil 4, je vois l'intérêt parce que Resident Evil 4 il y a des trucs qui sont dégueulasses dans le jeu, tu sais, des textures qui même en HD auraient rendu absolument immonde. Ça vaut le coup de refaire le jeu.
Ouais, et puis même comme tu le dis, par exemple Resident Evil 4 en termes de gameplay, bah aujourd'hui par rapport à tous les TPS qui sont sortis, il a mal vieilli. Ce que tu peux faire, c'est de prendre des hommages tant que ça reste des hommages et pas que ça soit du plagiat en fait. Il y a une différence entre les deux et ça serait cool qu'ils arrivent à aller dans quelque chose de une nouvelle direction pour le survival horror.
Eh ben justement, TH, on va enchaîner avec Tchernobylite, qui est un survival horror situé à Pripyat dans la zone de quarantaine. Donc on va jouer un Gugus qui va aller retrouver son épouse. Ah tiens, c'est pas du tout un pitch classique pour les jeux d'horreur, n'est-ce pas? Silent Hill, je te regarde. C'est des passionnés de Tchernobyl qui ont envie de faire un jeu d'horreur situé dans ce setting-là. Ne vous attendez pas à un stalker, je précise, parce que là, c'est pas un monde ouvert à la Call of Pripyat. C'est un jeu où vous allez sélectionner les endroits de la map où vous allez vous rendre, où là, t'auras une ambiance beaucoup plus intimiste. Alors, il y aura un aspect survie, mais c'est beaucoup plus compact, on va dire. Et c'est ça qui me donne envie dans ce projet, en fait, c'est que ils ont pas la folie des grandeurs, un peu comme le premier stalker, qui, bon, reste un jeu culte pour ce qui me concerne, mais qui clairement était un jeu, tu sais, qui avait les yeux plus gros que le ventre. Là, tu sens que les gars, ils savent qu'ils ont pas les moyens non plus d'avoir des ambitions démesurées. Ils font un jeu où tu vas te balader dans des zones faites à la main qui sont super cool. Actuellement, ils sont en train de faire un Kickstarter pour ajouter des zones supplémentaires, des niveaux supplémentaires, etc. Apparemment, il y a aussi un aspect gestion de base, etc. Il faut voir comment ça se présente. Pour le moment, je vous avoue que je suis pas du tout convaincu parce que j'ai vu de cette partie. Ce qui m'attire vraiment, c'est toute la partie... enfin, survie, quoi, survival horror, où il y a une ambiance, enfin, alors déjà, le lieu en lui-même, c'est vrai que, il est marquant, si tu veux, mais en plus, d'un point de vue artistique, d'un point de vue sonore, ce que je vois, ça donne envie. Techniquement, c'est super joli, les effets de lumière sont vraiment bien, tu vois que c'est un jeu qui a pas beaucoup de moyens, mais qui fait très bien avec ce qu'il a, quoi. Et j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir, sachant que leur Kickstarter, là, c'est quasiment mission accomplie. sur 89 000 euros demandés, ils en sont à 85 000, donc je pense que c'est la bonne voie. Aussi, une information importante, c'est des Polonais. Ils n'ont pas besoin non plus d'avoir un budget démesuré. J'espère que ça aboutira. Alors, le seul truc qui me dérange sur leur Kickstarter, c'est qu'ils présentent ça comme une précommande. J'espère que c'est vraiment le cas. Dans tous les cas, comme d'habitude, pour ces projets-là, je ne vous incite pas du tout à aller financer leur Kickstarter. Attendez que le jeu sorte, attendez les reviews. Et ma foi, c'est très prometteur.
Oui, et puis... comme tu le dis, Tchernobyl, derrière, il y a toute une mythologie. Parce que c'est vrai que dans le terme du jeu vidéo AAA, en général, on a souvent les États-Unis qui sont dévastés, même s'il y a eu des alternatives un peu avec Metro et puis Stalker, mais ça reste encore aujourd'hui rare. Rien que le setting de base, déjà, est différent de ce qu'on peut voir. Mais en plus de ça, ça donne envie parce que c'est pas un jeu qui a l'air d'avoir les yeux plus roux que le ventre, comme tu le dis. Et si tu dis, il fait peu de choses, mais qu'il te raconte une histoire suffisamment prenante ou qu'il a un propos derrière qui est intéressant, ça peut être cool. Même quand tu vois la vidéo de présentation, ok, c'est pas non plus le plus beau jeu de la Terre, mais voilà, il y a quand même du travail qui est fait derrière, avec des effets de lumière qui sont particulièrement jolis.
Les mecs se sont rendus sur place, hein, je précise, hein, pour prendre des photos, des trucs qui leur permettent de bosser sur le jeu, quoi. Et ça se voit. Le souci du détail, tu sais, qui est sur les décors, enfin, tu vois que les mecs, ils ont passé du temps à modéliser des trucs, à essayer de rendre quelque chose de fidèle, quoi.
Exactement. Et puis même, comme tu l'as précisé, c'est un survival horror. Et c'est vrai qu'un survival horror, personnellement, à Tchernobyl, j'en connais pas, tu vois. C'est sympa sur le papier. J'espère que les gars vont pas se foirer et qu'ils vont proposer un travail qualitatif derrière, parce que c'est toujours un petit peu les problèmes quand tu connais pas les développeurs derrière et tout. Tu dis, est-ce que ils vont pas se barrer avec la caisse? Enfin, il y a toujours cette crainte, même si elle est un peu plus contrôlée aujourd'hui. Mais bon, après, j'espère que, tu vois, pour eux, ils vont pas faire trop de conneries, parce qu'après, enfin, tu fais une connerie comme ça, après, t'es dans le milieu, t'es fini, quoi.
Bah, surtout quand t'es un petit studio comme ça. Autre chose que je trouve très intéressante sur ce jeu, c'est que, apparemment, les environnements évolueront en fonction de vos actions. Vous verrez sur la page de leur Kickstarter, par exemple, ils montrent l'évolution d'une des maps. Et à un moment donné, il y a un feu qui commence à se déclarer et tout. Enfin, écoute, s'il y a une histoire non linéaire, comme ils le promettent, avec des cartes qui changent, etc., ça peut être vraiment très très cool, quoi.
Ouais.
Ce qui me faisait peur au départ, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, allez, vas-y, encore quelqu'un qui essaye de faire son stalker à lui, tu vois. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une expérience beaucoup plus compacte qui essaye de prendre en compte le fait qu'ils ont pas les moyens de faire un open world, quoi.
Ouais, et puis même, en général, dans ce genre de jeu, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des jeux avec des monstres ou bien des créatures surnaturelles, tu demandes qui est le plus dangereux, en fait, entre l'homme et ces créatures-là. Là, il y a des rencontres qui se font quand même de manière... on va dire assez inattendu, où t'es pas toujours en bonne position, parce qu'il faut quand même avoir des munitions et tout, et ça a l'air d'être une denrée qui est quand même assez rare. Il y a toujours un propos qui est intéressant, s'il est bien traité derrière, et ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en fait, dans ce type d'expérience et dans ce type de jeu.
Bon, on va enchaîner, mon cher ATH, avec un projet qui est vraiment dingo, je trouve. Je vous mettrai un lien vers un article qui explique comment ce truc marche. C'est un add-on pour un émulateur qui fout le mode 7 en HD. C'est-à-dire que vous vous rappelez, le mode 7, enfin, même vous n'avez pas besoin de vous rappeler, hein, télécharger n'importe quel émulateur, lancer un jeu Super Nintendo, genre Mario Kart, et regarder les lignes pas droites, les pixels de partout, enfin c'est absolument dégueulasse, surtout sur une télé HD. Et bien du coup, il y a un gars qui a développé une méthode qui fait que, eh bien, on passe tout ça dans un filtre, on se retrouve avec des jeux en mode 7 qui sont comme on s'en souvenait à l'époque. C'est-à-dire que dans nos souvenirs, tu vois, on a HDifié les trucs. Et quand je vois ce que ça donne, je me dis, mais le jeu n'était pas comme ça en fait avant. Et ça, c'est le meilleur compliment que je puisse faire à cette personne-là. Par exemple, que ce soit sur Mario Kart ou pire Pilot Wings, tu vois, t'as des lignes pas droites, ça zigzague de partout, t'as des pixels, c'est dégueulasse. Et là, tu te retrouves avec une image clean. C'est pas comme certains filtres qui te mettent du flou, etc. Là, c'est vraiment propre. En fait, c'est une méthode, si vous voulez, qui rajoute des pixels supplémentaires là où on n'avait pas, etc. Et du coup, on se retrouve vraiment avec une image propre sur une télé HD. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Maintenant, s'ils pouvaient faire la même chose pour les jeux qui ne sont pas en mode 7, s'il vous plaît, ça serait cool.
Ouais, très clairement. Après, il reste encore des jeux Super Nintendo en 2D qui sont encore beaux pour moi aujourd'hui. Par exemple, Zelda Link to the Past, je trouve qu'il est... encore aujourd'hui toujours d'actualité. Bon, ça, après ça a vieilli, c'est pas de la même 2D que un Ori of the Blind Forest.
Non, mais c'est surtout un problème, tu sais, de résolution sur un écran plat, quoi. En fait, c'est surtout ça qui pose souci. Et puis,
déjà rien que le fait que à l'époque les télés cathodiques étaient un peu arrondies devant par rapport à un écran plat, ça pose certains problèmes, ne serait-ce que de perspective. Comme tu l'as dit, moi j'aimerais bien que ça s'applique à pas mal de jeux en fait, mais sur le jeu de base, parce que le mode 7 en fait, mis à part Mario Kart et quelques jeux comme ça, c'est pas un mode qui est souvent utilisé. Par exemple, je parlais de Zelda. Dans Zelda, c'est le mode, il apparaît de mémoire que quand tu utilises la carte. Hein. Est-ce qu'il y aura pas moyen de, si ça aurait pu être fait, je pense que le mec il l'aurait fait déjà, mais de HDifier aussi, tu vois, le jeu de base. Il y a quand même des joueurs encore aujourd'hui qui veulent découvrir l'histoire du jeu vidéo. Il y a des gens qui ont connu cette époque-là et qui veulent faire découvrir pourquoi pas à leurs enfants ou même ne serait-ce que pour eux-mêmes. Et ça serait bien, voilà, justement, d'avoir un petit coup de pouce et d'avoir ces jeux un peu plus beaux aujourd'hui pour que ça soit plus jouable. Mais c'est vrai que quand on voit les deux images qui sont côte à côte, c'est quand même le jour et la nuit, hein. Pour Pilot Wing, par exemple, ça change pas mal le jeu, tu vois. Et pour l'instant, bon, c'est que pour l'émulateur Super Nintendo, donc, le mode 7 est, de toute façon, était uniquement disponible pour la Super Nintendo, mais pourquoi pas après aller plus loin sur d'autres consoles rétro, par exemple la Mega Drive, qui est une console qui était très populaire à l'époque, ce genre de choses-là, quoi.
Ouais. Bon, ATH, on va maintenant parler de Cuphead, qui a sorti un petit patch récemment, on l'air de rien comme ça, parce qu'à la base, sur Cuphead, on ne peut jouer que Cuphead, justement, et pas le personnage du joueur 2, normalement. Ouais. Donc ça, vous pourrez désormais jouer ce personnage-là à la place de Cuphead. Mais surtout, ils ont rajouté apparemment de nouvelles animations, etc. Donc on se dit, ouais, cool, super le patch, merci, c'est sympa, en plus c'est gratuit, tout. Mais ces petits vicelards de développeurs, là, ils n'ont pas tout dit. Ils ont rajouté des nouveaux patterns de boss, genre par exemple, le boss où tu te retrouves dans un espèce de potager à combattre des légumes, dans la phase contre les carottes, ils ont rajouté un radis qui va venir te faire chier en plus, avec des nouvelles animations, ce genre de choses. Genre le jeu, tu sais, il était pas assez dur de base. Je sens qu'il y en a qui vont rager suite à ce patch. Mais en tout cas, visiblement, ils ont rajouté plein de choses comme ça, sans le dire. Et ça, mais je trouve ça mais tellement cool, en fait. D'habitude, les gens auraient tendance, tu sais, à hyper communiquer là-dessus pour attirer l'attention. Là, c'est genre, vas-y, on vous sort un patch comme ça, l'air de rien. Et en fait, il y a plein de features qui font plaisir dedans. Et merci, ça fait plaisir d'avoir ce genre de petites surprises.
Mais surtout que le jeu, Cuphead, il faut y jouer, quoi. C'est enfin, il faut y jouer si vous aimez un petit peu la difficulté, parce que c'est un jeu qui se rapproche, pour moi, des jeux de l'époque 8-16 bits. Où il y avait un apprentissage qui se faisait un petit peu à la dure. Donc voilà, si vous êtes pas patient et tout, c'est pas un jeu que je vous conseillerais. Mais c'est vrai que déjà rien que artistiquement, c'est une claque, hein. Pour moi, c'est un des plus beaux jeux qui a été fait, alors que c'est un jeu en 2D. Les animations sont magnifiques. En fait, tout a été fait à la main. Tu vois que chaque élément, il y a un soin tout particulier qui a été apporté dessus. Le jeu, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait un an ou deux. Et bah, il continue encore à bosser dessus, à apporter des petites touches. Parce que imagine que voilà, moi demain, j'ai envie de rejouer à Cuphead. J'y joue, je me dis, mais attends, mais ça, s'y était pas quand j'avais fait ce boss et tout. Et là, je découvre, en fait, que malgré le succès critique et les ventes du jeu, parce que le jeu atteint plus de 2 millions d'exemplaires quand même vendus, donc c'est quand même assez chouette, ils sont pas arrêtés là en si bon chemin. Ils ont dit, on va quand même bosser dessus. Après, je pense que les seules personnes qui peuvent râler aujourd'hui, ça sera les speedrunners, parce qu'ils devront apprendre des nouveaux patterns. Mais mis à part ça, c'est que du bénéfice pour tout le monde, quoi.
Bon, on va terminer cette partie news ATH en vitesse sur Star Wars Jedi Fallen Order qui a été annoncé. Bon, on va pas revenir sur l'annonce en elle-même parce que finalement, on n'a rien vu.
On a vu une bande-annonce, en fait.
Ouais, on a vu une bande-annonce d'un film, quoi. C'était très intéressant. Mmh. Pas très bon, le film, d'ailleurs, si je puis me permettre. Enfin, ce qu'on voit sur la bande-annonce, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, c'est du Star Wars archi-classique, quoi. Si y a rien de palpitant dans cette bande-annonce. Et de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu.
Et on n'a rien vu du jeu.
Voilà, c'est ça. Donc, on va parler plutôt de l'annonce qui accompagnait cette bande-annonce, n'est-ce pas ? À savoir que, et ça c'est une grosse surprise, ce sera un jeu solo sans microtransactions. Est-ce que Electronic Arts aurait vu la lumière ? Mais en tout cas, merci Respawn, encore une fois. Je vous fais confiance pour produire quelque chose de cool. Et écoutez, Electronic Arts, pour une fois que vous prenez une bonne décision, c'est bien. Promis, si le jeu est bien, je l'achète.
Pas de microtransactions, pas de lootbox, pas de DLC prévu pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite si le jeu se vend bien. Ils ont dit, pour l'instant, on n'a pas prévu de DLC. Après, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, le jeu va être un jeu solo sur l'univers de Star Wars, Et ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il y a, je crois que c'est Chris Avlon qui travaille dessus aussi, sur le scénario.
Ouais, mais bon, Chris Avlon, il travaille sur tous les jeux de la Terre.
Ouais, mais je me dis que peut-être, voilà, il y aura un soin particulier qui va être fait là-dessus. Si tu veux, ça m'intéresse un peu, parce que comme tu l'as dit, la bande-annonce, elle me donne pas du tout envie. Et surtout, il y a eu un battage médiatique par rapport à ça. Ouais, il y a un grand événement, on va annoncer Star Wars. Moi, je me suis dit, génial, on va voir à quoi ressemble le jeu, le gameplay. Et non, en fait, on a eu une bande-annonce. Alors que le truc, t'aurais pu le balancer sur YouTube, balancer un tweet, et tout le monde en aurait reparlé parce que c'est Star Wars.
Non, mais même, enfin, je comprends pas, qui n'ait pas encore compris que ça ne marche plus, ces trucs-là, quoi. Faire des teasers comme ça à la con, enfin, c'est... Quel intérêt, quoi.
Ouais, mais
quel
surtout intérêt que, enfin, tu sens bien que le jeu... Il va être annoncé à la conférence Microsoft de l'E3, enfin le gameplay, parce que Electronic Arts ne sera pas à l'E3, Sony non plus, donc le seul qui reste, c'est Microsoft. Et puis quand tu lis entre les lignes, le jeu sera optimisé pour Xbox One X. Donc tu sais très bien que le jeu, tu le verras là-bas. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand même que le jeu sort en fin 2019. Et là, on est mi-2019 et qu'on n'a toujours pas vu de gameplay. Et là, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que ça va pas être un Mass Effect Andromeda Bliss? Parce que c'était ce qui s'était passé, on avait quasiment rien vu
après,
du jeu.
Vu le studio derrière, j'ai confiance, parce que Respawn, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais jusqu'à maintenant, tous les jeux qu'ils ont sortis, absolument tous, étaient fignolés aux petits oignons. Donc ça, plus le fait que c'est à peu près le seul studio chez Electronic Arts qui est visiblement a le droit de faire un jeu solo. Ouais. Je me dis qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Donc honnêtement, là-dessus, je m'inquiète pas trop, quoi.
Ouais, mais moi, enfin, si tu veux, Respawn, ils ont le bénéfice du doute. Mais je me dis, est-ce que le jeu, suite à l'échec de Star Wars Battlefront 2 et toutes les polémiques qu'il y a eu derrière, Electronic Arts les a pas pressés pour sortir le jeu et du coup leur proposer un calendrier assez faible avec Electronic Arts derrière, je me méfie toujours. Et j'ai toujours cette crainte-là, par rapport au fait que le jeu a été annoncé assez tardivement, qu'on n'a pas vu de gameplay, parce que normalement, un jeu comme ça, en connaissant Electronic Arts, ils auraient dû être annoncés à l'E3 de l'année dernière, après balancer du gameplay, et l'année où il sort, les gens savent à peu près à quoi il ressemble. Je sais pas, j'ai l'impression que le jeu a été fait dans la précipitation. Mais bon, après, c'est juste une crainte que j'ai vis-à-vis d'Electronic Arts.
Ouais, ou alors c'est juste qu'ils ont un plan comme de merde. Hein. Ça se trouve, ils ont du gameplay, mais pour une raison X ou Y, ils ont dit que c'était une bonne idée de balancer une bande-annonce comme ça, quoi. Enfin, on sait jamais avec le marketing. Hein.
Ouais, et puis après, au contraire, tu vois, il peut y avoir une bonne surprise. Bon, c'est pas un jeu que j'ai fait, mais de ce que j'ai entendu des gens qui ont touché, c'était Doom de Bethesda, annoncé genre 6 mois à l'avance, le jeu est sorti, tout le monde a dit ouais, ok, ça c'est Doom comme on aime, et le jeu était bon en fait.
La différence quand même, c'est que Doom de Bethesda, la première bande-annonce, c'était du gameplay. Après Respawn, on sait qu'ils sont capables de faire des solos de qualité.
Ouais.
Titanfall 2, j'écris ton nom, n'est-ce pas?
Donc, je sais que c'est pas vendu.
Voilà. J'espère que Electronic Arts ne se chiera pas dessus. Maintenant, j'aimerais bien que ce jeu marche, moi. Enfin, s'il est bon, hein, évidemment.
Oui.
Hein, on va pas non plus. Mais s'il est bon, tu vois, j'aimerais vraiment bien qu'il marche pour que ça envoie un signal à Electronic Arts pour leur dire, s'il vous plaît, voyez là, ça sert à rien de faire que des jeux à service. Mm. Les jeux solo, ça peut marcher aussi. Il y a un public.
Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est que maintenant, le fait de pas avoir de microtransactions ou pas de lootbox, c'est un argument marketing. Limite, ça va être inscrit sur la jaquette du jeu. Et tu vois, je me dis putain, en fait, on est vraiment dans une époque assez triste parce que maintenant, quand on entre guillemets, voilà, excusez-moi l'expression, mais quand on t'encule pas, c'est un argument de vente, quoi. Promis, on vous baisse pas, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En tout cas, écoute, pour une fois, Electronic Arts, vous avez fait quelque chose de cool. Donc, c'est bien, vous n'aurez pas le titre de connard de la semaine. Quand même, on est sympa, quoi. Voilà. Allez, ATH, on en a terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer au gros morceau. Et on va vous parler de... Sekiro!
私はかつて修羅を見ました。不思議。確かにもらい受けた。久しいな。
Sekiro Shadows Die Twice. Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu. Je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent déjà le jeu, en tout cas ceux qui sont intéressés l'ont probablement déjà fini. On va essayer de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, on va pas vous faire tout le pitch du jeu, etc., ça ne sert à rien. On va attaquer direct dans le dur, et on va commencer par le sujet. Mon cher ATH, est-ce que ce Sekiro, c'est un énième Dark Souls, ou est-ce qu'on est enfin parti sur une nouvelle voie ?
Alors, quand tu joues au jeu, déjà, tu t'aperçois qu'il y a une certaine base qui appartenait au Dark Souls qui est toujours présente, mais... ça se joue pas du tout pareil. D'ailleurs, je pense que tu pourras le confirmer quand tu joues à Sekiro et que tu essaies de jouer comme un Dark Souls. Très clairement, tu te fais pousser.
Tu te fais rouler dessus. Voilà. Je pense que au début du jeu, ils ont mis exprès un boss qui est là pour apprendre aux joueurs de Dark Souls à jouer, en fait. Et on y reviendra plus tard. C'est pas forcément un moment très plaisant, d'ailleurs. Non. Pour moi, c'est l'anti-Dark Souls, en fait, Sekiro. C'est-à-dire que Dark Souls, pour moi, c'est un jeu d'attente, d'observation, où il faut pas se précipiter. Finalement, les réflexes, c'est assez secondaire.
Ouais.
L'important dans Dark Souls, c'est de prendre bien le temps d'observer et d'agir au bon moment. Sekiro, pour moi, c'est à peu près tout l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est un jeu où il ne faut jamais laisser respirer ton adversaire, où il faut prendre l'initiative, parce que si t'attends très clairement, l'adversaire, il va pas t'attendre, il va te poutrer la gueule. Où il faut éviter tout ce qui est esquive, etc. Alors que l'esquive, c'est un peu le cœur du gameplay de Dark Souls, quoi, si tu veux.
Ouais. Enfin,
là, dans Sekiro, si t'esquives, il y a 9 chances sur 10 que tu te prennes un coup derrière. Donc, voilà.
Et que tu meurs.
C'est un jeu, en fait, où finalement, je trouve que l'observation est assez secondaire. Alors certes, il y a des patterns, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que oui, ça restait un jeu d'observation. Il y a quand même pas mal de boss, si tu veux, dans ce jeu. Où il n'y a pas vraiment d'ouverture, quoi. Et c'est toi qui dois créer l'ouverture à un instant ou à un autre.
Ouais.
C'est un jeu où il faut vraiment prendre l'initiative. Et pour moi, rien que ça, tu vois, ça en fait mais l'antithèse parfaite de Dark Souls, quoi.
Ouais, mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il faut que tu observes, mais en même temps que tu attaques ou contre-attaques. Parce que le jeu, il te laisse pas de répit. Après, moi, je trouve qu'en fait, le côté Dark Souls, par rapport aux esquives et tout ça, comment ça se joue, tu le retrouves en fait quand tu affrontes des créatures assez imposantes.
Oui, mais il y en a pas beaucoup.
Oui, voilà, c'est exactement là où je veux en venir. De mémoire, tu affrontes 2-3 créatures comme ça, mais la plupart du temps, ça va être des combats de sabre en duel. Vraiment, ouais, le jeu, il se joue pas du tout pareil. Les mécaniques sont complètement différentes, et je pense que les gens qui veulent y jouer comme un Dark Souls, bah, ils vont très vite être perdus. Il y a la composante aussi entre guillemets de Tenchu, parce que à la base, le jeu, ça devait être un nouveau Tenchu, sauf qu'ils sont partis dans une direction totalement différente. Et il faut pas non plus se dire que le jeu, c'est un jeu d'infiltration, parce que là, très clairement, tu vas pas y trouver ton compte. C'est un jeu où il y a des micro-films d'infiltration, mais ça reste que vraiment, mais c'est très secondaire, voire même tertiaire, en fait, par rapport à
l'intérêt
ce que ça
de l'infiltration,
au jeu.
C'est de nettoyer les mobs de base et éventuellement de gratter une barre de vie sur le demi-boss qui humine la map et qui te fait chier, quoi.
C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi l'utiliser sur certains mini-boss. C'est-à-dire que il y a un boss qui a 2 barres de bouclier. Une barre de bouclier, entre guillemets, c'est quand tu vas descendre sa jauge de posture en entier. Donc du coup, c'est un truc qui est quand même assez long de base. Et si tu exploites un peu le level design ou que tu arrives de manière un peu furtive, tu peux commencer le combat avec le boss qui a 50% de sa barre de vie de moins. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez intéressant parce que vu que le jeu est quand même, on le dit, assez compliqué, enfin surtout dès le début, bah voilà, ça facilite un petit peu le jeu, quoi.
Ouais, alors juste pour rappeler rapidement le cœur du gameplay de Sekiro, Miyazaki l'avait dit, pour lui, l'objectif de ce jeu, c'est de faire ressentir le choc des épées.
Ouais.
De montrer la tension dans un duel au sabre. Et pour le coup, je pense qu'il a parfaitement réussi ça, c'est-à-dire que Sekiro, c'est un système où l'objectif, c'est pas vraiment de réduire la barre de l'ennemi à zéro, c'est surtout de faire en sorte qu'il ne soit plus en possibilité de se défendre pour lui infliger un coup fatal. Ce coup fatal retirant une barre de bouclier dont vous a parlé ATH. Donc l'idée, c'est que plus tu vas parer de manière parfaite, par exemple, plus tu vas déstabiliser ton ennemi, et inversement, plus tu vas lui donner de coups, plus tu vas le déstabiliser également. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est très intense, où tu vas passer ton temps à donner des coups et à parer. Et du coup, je pense que From Software a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu de clash d'épée, et on le ressent parfaitement sur tous les duels qu'il peut y avoir dans le jeu.
Bah oui, c'est un jeu où, pour faire un combat quasi parfait, il faut ne pas avoir de temps mort dans l'affrontement.
Et c'est d'autant plus vrai que si tu restes passif, la jauge de brise-garde de ton adversaire va baisser. Donc du coup, c'est un système qui t'incite à être tout le temps sur l'offensive pour arriver au moment où tu vas briser la garde de ton adversaire et lui infliger un coup fatal.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ça se répercute aussi pour ton personnage. C'est-à-dire que si l'ennemi te fait un combo, bah ta barre de posture va augmenter. Du coup, tu te dis, là, ça va être plus rentable d'esquiver pour pouvoir récupérer un peu de cette jauge afin de pouvoir contrer les attaques éventuelles qui vont arriver par derrière. Et du coup, des fois, il va être plus rentable, toi, tu sois vraiment sur l'offensive, même si ta jauge est quasiment pleine, parce que tu te dis, lui aussi, elle est quasiment pleine. Du coup, il faut que je la termine avant qu'il me fasse un contre derrière, parce que là, je pourrais pas riposter. La plupart des affrontements, comme je l'ai dit, c'est des combats de sabre, et ça va être vraiment le fil rouge de toute l'aventure de Sekiro, en fait.
Autre point, TH, on est dans un jeu From Software. Encore une fois, on insiste sur le fait que ce n'est pas un Souls. Pour autant, on retrouve des grands principes de From Software, notamment les affrontements grandiloquents avec les boss. Et justement, sur ces boss-là, je ne sais pas ce que t'en penses à TH, mais je trouve qu'il y a un petit côté Megaman, en fait, dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a certains boss, en fonction du fait que t'es débloqué certaines compétences, certains pouvoirs, etc., bah le combat il va pas du tout se passer de la même manière, quoi.
Oui, bah il y a des boss, on va prendre un boss du début par exemple, qui demande pour faciliter le combat d'avoir une compétence où tu tires ton grappin en fait sur lui. Cette compétence tu l'as de base, mais tu n'as pas la capacité de contre-attaquer derrière.
Oui, c'est-à-dire que tu peux pas donner de coups quand t'es en l'air.
C'est ça. Et quand tu débloques cette compétence, en fait, le combat, c'est entre le jour et la nuit. Il y a plusieurs types d'ennemis qui craignent un certain objet en particulier, qui ont une faiblesse à certains types d'éléments. Et quand tu prends le temps, en fait, d'analyser et de réfléchir aussi, parce que des fois, ça va être fait de manière explicite, mais des fois, si tu réfléchis par rapport à ce que tu as vécu avant, tu peux déduire de toi-même la faiblesse d'un ennemi. Et ça, comme tu l'as dit, ça prend un peu des airs de Megaman. Parce que dans Megaman, voilà, tu vas dans un niveau, tu affrontes le mec en feu, mais juste avant, t'as débloqué le pouvoir de glace. Tu comprends, c'est assez simple. Là, dans Sekiro, c'est fait de manière un peu plus subtile que dans Megaman, parce que voilà, il y a eu les années de jeux vidéo qui sont passées par là. C'est assez grisant de découvrir par toi-même quelle est la faiblesse d'un ennemi, et ça, c'est quelque chose que je trouve parfaitement transcrit en fait dans Sekiro.
Et d'ailleurs, tu parlais du fait que le jeu te télégraphe assez régulièrement, de manière plutôt explicite, comment vaincre tel ou tel boss. Je trouve. Et là, je sens que je vais en faire frémir certains, que ce jeu est plus accessible que les précédents jeux From Software. On en parlait de la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son accessibilité, entre guillemets sa difficulté plutôt. Hein. Bah justement, moi je trouve que c'est le jeu de From Software où il y a le plus de choses qui te sont expliquées.
Oui.
Et je trouve ça bien, d'ailleurs. Déjà, tu commences le jeu, il y a un tuto. D'habitude, les jeux From Software, t'es largué là et démarre de toi, quoi.
En fait, si, dans les jeux From Software, avant, t'avais des tutos, mais ils étaient cachés un peu. Et puis même, c'était pas fait de manière très intelligente, parce que le tuto, c'était de lire des messages au sol qui t'expliquaient juste à quelle touche correspondait la manette. Mais
voilà,
c'est pas très intéressant, quoi.
Et d'une manière générale, je trouve qu'il y a une emphase qui a été mise sur la finition du jeu. C'est-à-dire, là, je parle vraiment du côté menu. C'est le premier jeu From Software où je ne trouve pas les menus absolument dégueulasses.
Oui.
Je pense que l'implication d'Activision a eu un impact positif, pour le coup, sur toute cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a enfin des putains de menus corrects dans Sekiro. Il y a des arbres de talent qui sont clairs, le menu il est propre. Enfin, tu comprends, tu vois, quand tu utilises le truc. Les raccourcis, ça marche pas trop mal. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est beaucoup plus sympa, tu sais, dans son utilisation, qui est beaucoup moins obscur qu'un Dark Souls.
C'est un jeu, en fait, où même déjà... Tout va être plus ou moins explicite pour la compréhension du joueur. Il y a un tutoriel qui est là dès le début du jeu pour t'expliquer comment fonctionne le jeu.
T'as un personnage qui est là pour t'aider à t'entraîner.
Voilà, il y a un personnage qui te sert de punching ball officiel pour maîtriser les différents éléments de gameplay, pour bien comprendre comment fonctionnent les timings et tout. Et c'est quelque chose que je trouve qui est chouette.
Moi, si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui se lancent dans le jeu, allez voir ce mec-là pour qu'il vous entraîne et faites tous les trainings avec lui, quoi.
Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, les trainings évoluent au fur et à mesure où tu acquiers des compétences. Au début, tu te dis, mais attends, le jeu, ça va être ça tout au long du jeu. Alors non, il y a des choses qui vont évoluer, tu vas avoir des nouvelles compétences qui vont être plus ou moins utiles selon la situation. Il t'apprend vraiment les mécaniques de base du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que il faut se rappeler en fait des anciens jeux From Software. Par exemple, pour moi, le plus dégueulasse, c'est Demon's Souls. Demon's Souls, t'es lâché dans le jeu, mais on t'explique rien du tout. Il y a plein de statistiques. La première fois que j'ai joué au jeu, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Enfin, je savais entre guillemets à quoi ça correspondait, mais je ne savais pas, par exemple, tel type de statistiques, fallait l'augmenter pour équiper une arme et tout. Il y avait tellement de chiffres qui étaient obscurs que tu ne savais pas. Là, dans Sekiro, tout est beaucoup plus simplifié. On se prend plus la tête avec un build de personnage ni avec des statistiques. C'est-à-dire que tu gagnes d'expérience et tu peux acquérir des nouvelles compétences. Et ça, déjà, rien que pour ça, tu vois, le jeu est beaucoup plus accessible que ne serait-ce que Dark Souls.
Ce qui ne plaira pas à tout le monde, d'ailleurs, je précise au passage. C'est important à dire pour les joueurs de Dark Souls. Il n'y aura pas la richesse de build qu'on peut avoir dans un Souls. Oui. Tu vois. C'est une expérience qui est beaucoup plus dirigée, voilà. Sekiro.
Déjà, on t'impose un personnage. Alors que dans Dark Souls, tu crées ton personnage selon la classe que tu veux. Dans Sekiro, tu joues un personnage qui garde la même arme du début à la fin du jeu. Ou bien tu vas pas dire, oui, bon, je vais mettre une armure de samouraï pour être beaucoup plus résistant et encaisser plus de dégâts. Tout le monde va jouer le personnage de la même manière. Et la seule chose qui va nous différencier, ça va être les différents outils que tu vas utiliser, avec la prothèse Shinobi, tout ça. Enfin, From Software a été de plus en plus accessible au fur et à mesure où ils ont développé leur jeu de Demon's Souls. À Dark Souls 3, il y a eu quand même une évolution. Ça a toujours été fait de manière que ça soit un peu plus didactique. Ça restait quand même assez obscur.
Et il est aussi beaucoup plus clair sur, tu sais, les fins cachées. Il y a des personnages qui te donnent des indices. Et pour débloquer les différentes fins du jeu, finalement, c'est assez simple, quoi, comparé à un Souls. Donc vraiment, c'est un jeu qui, d'une manière générale, te prend beaucoup plus par la main.
Ouais.
Par contre, est-il pour autant plus juste que les Souls? Ça, c'est une autre question, mon cher ATH. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais personnellement, c'est un jeu qui m'a beaucoup plus frustré que les précédents jeux du studio, notamment parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé qu'il était parfaitement injuste, quoi.
Ouais, bah, il est beaucoup plus injuste parce que il y a des défauts qui sont inhérents depuis toujours, en fait, chez From Software. Et ces défauts-là, j'ai l'impression que depuis Demon's Souls, les mecs, ils ont toujours pas compris comment les régler. Je pense déjà qu'on peut commencer par le problème qui est le plus rageant, c'est la caméra. Hein, ça, je pense que...
Bah, on l'avait déjà gueulé sur Dark Souls 3, on avait déjà parlé sur Bloodborne. C'est un problème qu'on critique depuis un moment, déjà. Mais là, je trouve que ça prend une toute autre ampleur sur Sekiro. Pourquoi? Parce que Bloodborne et Dark Souls, c'est des jeux qui te laissent une marge d'erreur. C'est-à-dire que Dark Souls, pour peu que tu fasses un build, par exemple, avec beaucoup de HP, tu peux prendre le temps d'observer ton adversaire, tu peux te prendre des coups. Tu vas pas mourir direct comme ça. Bloodborne, c'est un jeu, si jamais tu te retrouves en difficulté, ou tu fais une connerie, tu réattaques derrière et tu récupères tes HP. Et ouais, en plus, tu peux faire un build comme dans Dark Souls, où t'as beaucoup de HP, etc. Donc c'est des jeux, finalement, tu vois, qui te laissent une certaine marge d'erreur. Sekiro, je pense que globalement c'est un jeu plus facile. Le problème, c'est que c'est un jeu plus facile, sauf au moment où tu vas faire une erreur. C'est-à-dire que s'il y a un boss où tu galères un peu, t'auras beau avoir fait un combat quasi parfait, si jamais tu fais une erreur, tu vas te retrouver avec 90%, si ce n'est toute ta barre de vie qui va sauter, quoi. Et du coup, le fait d'avoir cette mécanique en place, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pardonnable que dans les précédents jeux du studio. Et déjà dans les précédents jeux du studio, on gueulait.
Ouais, tu perds beaucoup trop vite ta vie, c'est-à-dire la plupart des boss te one-shot ou two-shot. Du coup, tu rates une esquive ou bien un contre par rapport à la caméra. L'ennemi, il va pas attendre que tu te relèves pour te contre-attaquer. C'est-à-dire que l'ennemi va aussi être agressif la plupart du temps pour pouvoir te tuer le plus rapidement possible. Et si tu perds le timing, tu perds ton combat parce que la caméra n'a pas suivi. Bon, il faut être honnête, la plupart du temps, tu vas perdre parce que t'as pas été assez attentif. Mais quand ça arrive à certains moments, surtout quand le boss, il lui reste 2 PV et que t'es sur le point de gagner, qu'un problème de caméra aussi gênant arrive, pour moi, je sais pas, il y a manière à gueuler et à crier, caméra de merde.
Et même chose avec les hitbox, tu vois. Enfin, c'est la même chose, c'est le même problème, quoi. Beaucoup se souviendront du combat avec l'ogre, par exemple. Bon, moi, je l'ai roulé dessus, mais c'est parce que j'avais fait un boss beaucoup plus compliqué avant. Mais c'est inadmissible que les shops soient toujours autant pétés dans les jeux From Software, par exemple. Surtout quand c'est des attaques, des moves signatures qui vont te retirer quasi toute ta barre de vie ou te one-shot. Tu vois, c'est pas possible. C'est inacceptable. Et moi, ce qui m'agace, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui traitent ça comme un défaut, mais un défaut mineur, tu vois. Alors que pour moi, c'est plus mineur, en fait. C'est un vrai gros défaut qui est inacceptable dans un jeu qui demande de faire des combats quasi parfaits, mais lui il est pas parfait par contre sur l'exécution quoi. Toi il faut être parfait sur l'exécution, mais lui non.
C'est ça.
Et ce d'autant plus que moi j'ai un vrai problème avec la difficulté de ce jeu. D'une manière générale, hein, en dehors de ces problèmes-là, j'ai un vrai problème avec ce jeu qui te demande d'avoir une attention de tous les instants et qui te punit sans autre forme de procès dès que t'as un petit moment où tu décroches, quoi. Franchement, il y a des moments où j'ai trouvé le jeu injuste à cause de ça. Où je faisais des combats mais absolument magnifiques et d'un seul coup tu vois une petite perte d'attention et hop y a, j'ai plus de barre de vie, je suis complètement déconcentré et je me fais tuer. Ouais. Déjà rien que ça de base tu vois, je trouvais le jeu assez frustrant, mais alors là si tu rajoutes ça par-dessus, je suis désolé, c'est pas acceptable France Software quoi. Si vous êtes exigeant avec vos joueurs, soyez exigeant avec vous-même quoi au bout d'un moment. Merde, ces problèmes ça fait des années qu'ils existent, je trouve inadmissible qu'en 2019 vous ne soyez toujours pas foutus de faire des murs transparents.
Le pire, c'est que, tu sais, comme dans les Dark Souls et dans Bloodborne, il y a des ennemis qui ont des attaques aussi téléguidées. Il va faire une attaque, toi tu esquives, mais au dernier moment, tu vois que l'animation déjà, elle est pas normale. On dirait que le mec, il est sur une toupie ou un ressort. Il va tourner pour te toucher, mais alors quand tu vois le mouvement du bras du personnage ou la direction dans laquelle il allait, c'était pas possible. C'est juste que le jeu, il a dit non, mais je vais quand même me téléporter vers toi. Mmh. Et ça, déjà, donc ça pose des problèmes, surtout quand le jeu est aussi exigeant que ça. Le fait que c'est des problèmes qui sont là depuis assez longtemps, ils auraient dû être corrigés pour moi dès Dark Souls 1, voire Dark Souls 2 plus tard.
Ah, cela dit, il y avait un problème qui avait été plus ou moins corrigé sur Dark Souls 2, ATH, c'est la caméra. Et c'est ça qui est fou. Comme Miyazaki, visiblement, n'a jamais joué à Dark Souls 2, il n'a même pas repris les éléments qui étaient intéressants dans ce jeu.
Mais le pire, c'est que bah moi, personnellement, sur PS4 Pro, le framerate, il est en dents de scie, en fait. Et ça, je suis désolé, mais je peux pas l'accepter dans un jeu comme ça. Quand je vois DMC5... où le jeu tourne en 60 FPS, nickel, et le jeu est beaucoup plus beau. Là, le jeu est pas spécialement beau, tu vois. Et mm-hmm. il arrive quand même à avoir ses petits soucis techniques. Alors, moi, je suis pas un mec qui est là pour dire, oui, la performance pour la performance. Mais quand il y a des jeux qui te demandent d'avoir un timing assez précis. Et que tu rates le timing parce que, au bout d'un moment, le jeu commence à laguer. Pour moi, c'est des trucs qui sont pas acceptables. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que j'ai l'impression que, entre guillemets, la presse et les influenceurs, parce que c'est From Software, on accepte. Je dis pas ça comme quoi c'est un complot et tout, mais j'ai l'impression qu'on tolère à certains ce qu'on tolère pas à d'autres. Et ça me pose un problème en fait. Moi je veux bien qu'on critique et tout, mais dans ce cas-là il faut le faire pour tout le monde. C'est pas parce que c'est From Software qu'il faut entre guillemets leur laisser un passe-droit. Mais c'est vrai que des fois t'as l'impression que le jeu te punit et que c'est pas de ta faute en plus, donc t'as le double combo. Mmh. Alors que des fois on entend beaucoup de gens dire oui, Dark Souls c'est des jeux qui sont durs mais pas punitifs. Alors ouais. Que là,
moi, Sekiro, c'est pour ça que, par exemple, je ne le recommanderais jamais à quelqu'un comme Morlan, parce que je trouve injuste ce jeu. Et même en dehors des problèmes de caméra qu'on a évoqués, je trouve que c'est un jeu qui a une difficulté en dents de scie, en plus. Mmh. C'est un jeu qui te met direct, mais des boss, mais supra casse-couille. Et derrière, tu te retrouves avec des boss qui sont triviaux, quoi, en fait. C'est quoi la courbe de difficulté dans ce jeu? En fait, elle est où? C'est-à-dire que, normalement, une bonne courbe de difficulté, pour moi, c'est un truc qui est progressif.
Ouais.
Ou alors qui est constant, à défaut d'être progressif, qui est constant. C'est-à-dire si tu fais un jeu dur, il est dur tout le long. C'est pas genre t'as un boss qui là, t'as l'impression d'être face à un mur et le boss suivant, tu le passes comme une promenade de santé. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui va pas dans le jeu.
Bah moi, j'ai l'impression que même la difficulté, excuse-moi, mais elle est dégressive en fait. C'est-à-dire que le début, j'ai pleuré des larmes de sang et que en fait après, sur la fin du jeu et tout, j'ai roulé sur le jeu.
Enfin... Ouais, mais ça c'est parce que t'es plus doué que certaines personnes dont moi, TH. Parce que moi, je peux te dire sur la fin du jeu. Il y a des trucs qui m'ont rendu fou hein, personnellement, donc on n'est pas tous égaux face à la difficulté hélas.
Après tu vois, moi je prends mon cas personnel, mais les deux premiers boss du jeu c'était n'importe quoi. Le jeu dès le début il me dit oh, t'apprends à jouer, et depuis que j'ai affronté ces boss là, et ben après c'est-à-dire que les autres boss c'était quasiment pas les mêmes patterns, mais c'était ils se battaient on va dire de la même façon entre guillemets, parce que c'est un jeu plus sur le timing, le contre que l'esquive.
Et oui, mais c'est justement ça le problème à TH.
Oui.
C'est que toi tu les as ces timings. Il y a des gens comme moi par exemple, tu vois. Je fais un petit rappel sur quel type de joueur je suis. Je suis un joueur qui en des années de Dark Souls n'a jamais maîtrisé la parade. C'est vous dire à quel point je ne maîtrise pas les timings. Le seul jeu où je maîtrise à peu près la parade, c'est Bloodborne. Parce que Bloodborne est super large sur la parade. C'est-à-dire, le temps qu'il te laisse pour faire des contres, t'es large par rapport à Dark Souls.
Ouais.
Et, mais Sekiro, il est assez large dans le sens où il est sympa, tu vois, il te laisse spammer la parade.
Bien sûr, ouais.
Donc, de ce côté-là, ça va. Mais là où j'ai un problème, c'est que moi, j'ai pas de réflexe. Et il y a des boss qui te demandent d'avoir des putains de réflexes. Et moi, je les ai pas, ces réflexes-là. Et du coup, moi, c'est un jeu où j'ai vécu des expériences qui n'ont vraiment pas été plaisantes. Autant je reconnais que le système de combat de Sekiro est super cool, je sais que toi, ATH, t'as pris un très bon moment là-dessus, autant moi, il y a des moments où, honnêtement, si j'avais pu me passer de faire des combats, je m'en serais passé, quoi. Il y a des moments où j'étais là, mais encore un boss, non mais... Surtout que c'est un jeu, tu sais, où il y a... qui te met beaucoup de mi-boss, etc., enfin d'ennemis un peu charnus, quoi. Il y a des moments où, on y reviendra après, mais où j'avais l'impression de pas respirer, en fait.
Ah oui.
D'habitude, en Dark Souls, quand je finis un boss, tu vois, je suis là, je fais... Putain, ça y est, j'ai réussi. Tu sais, t'as le soulagement, mais en même temps, la satisfaction d'être arrivé à quelque chose.
Bien sûr.
Sekiro, c'est le premier jeu de France à voir où je suis sorti soulagé, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire soulagé dans le sens, putain, c'est enfin fini, vivement, que je recommence à explorer, je passe à autre chose, quoi.
Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Comme on dit, voilà, on n'a pas tous les mêmes difficultés par rapport à un jeu. Peut-être que toi, t'étais meilleur que moi en exploration, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, vraiment, les boss du début du jeu, ils m'ont tellement mis cher dans ma gueule. Si tu veux, je me suis tellement appliqué à maîtriser ça, j'avais tellement chié sur eux que du coup, les autres, ils sont arrivés plus tard, ils m'ont pas posé problème. Bon, après, ça veut pas dire que je les ai first try à chaque fois. Hein. Il y a des boss sur qui j'ai galéré aussi. Mon premier run était quand même assez compliqué. Mais j'ai trouvé que par rapport à ce que j'ai vécu à la fin, ça n'avait rien à voir. C'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que le début, j'ai vraiment pris cher à ma gueule. Ces boss-là, ils m'ont appris à jouer. Et après, j'avais le gameplay en main et tout. Et entre guillemets, j'étais devenu meilleur. Et je pense que ça dépend comment les gens vont jouer et tout ça, mais ça c'est quelque chose qui me pose un certain souci. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, soit la courbe de difficulté doit être constante, soit elle doit être progressive. C'est-à-dire que le début du jeu normalement ça doit être la partie la plus simple, ça pas doit pas être la partie la plus dure. Tu sais comme les jeux à l'époque, par exemple le premier niveau de Super Mario, tout le monde peut le finir. Mais pour finir le dernier niveau du monde 8, bah c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des ennemis qui te balancent des putains de marteaux et qui sautent en l'air. Il y a des troupes partout, ça n'a rien à voir avec le premier niveau. Et en termes de courbe de progression, c'est beaucoup plus agréable de proposer un challenge qui va évoluer au fur et à mesure. Et qui va devenir aussi plus difficile parce que toi tu vas avoir des compétences aussi plus pétées, donc c'est normal qu'il y ait une réponse qui se fasse en face. Mais là j'avais vraiment l'impression en fait que le jeu c'était dans le sens inverse.
Tu sais ce qui m'a frustré le plus par rapport au début justement, j'avais l'impression que From Software il se sentait obligé de mettre quelque chose de dur, tu vois. Genre il faut que les joueurs ils arrivent et qu'ils en chient direct parce que nous on est From Software, tu vois, et nous notre réputation c'est de faire des jeux durs. Mais vraiment quoi, j'avais l'impression d'avoir une difficulté bête et méchante pour rien quoi. Ça m'a déçu en fait quand j'ai vu ça. La première fois que j'ai affronté le démon de l'asile dans Dark Souls par exemple, tu dis oh, il fait mal celui-là, puis tu te rends assez vite compte qu'en fait c'est un boss qui est pas compliqué quoi. Là j'ai l'impression d'avoir eu des murs directs quoi, et là je me suis dit mais vous avez fait quoi là en termes de difficulté, surtout quand j'ai vu derrière que à l'inverse, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je suis pas un joueur doué et pourtant il y a des boss, mais des vrais boss hein, pas des petites merdes avec deux barres de vie tu vois, mais des vrais boss sur lesquels j'ai roulé. Parce que la difficulté du jeu, c'est n'importe quoi. C'est tellement mal équilibré que il y a des moments où tu avances comme si c'était du beurre, quoi. Ça n'a aucun sens, la difficulté de ce jeu, pour moi.
Ouais, et puis même des fois, tu vois, par exemple, t'arrives en plein milieu du jeu, t'as un boss, c'est un boss, entre guillemets, puzzle. En fait, tu te dis pourquoi pas avoir mis des trucs comme ça dès le début, parce que là, il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui sont arrivés... Enfin, déjà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé déjà à l'ogre. Alors je me dis, putain, mais si j'avais commencé par l'autre côté, tu vois, en essayant de battre une certaine dame. Et ils auraient fait quoi? Ils auraient pété le CD, ils auraient pété pété la console, enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi ne pas avoir proposé les boss, entre guillemets, les plus simples, avec les patterns les plus faciles à lire dès le départ, et justement laisser les mecs un peu plus coriaces vers la fin du jeu? Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Et là, j'ai l'impression que ils ont dit, bon, lui on met là, et ça n'a pas été réfléchi de cette manière-là. Ou bien peut-être qu'ils ont dit, bah on va faire un jeu difficile, on va le marketer comme un jeu dur. Et les gens qui vont arriver à... au début du jeu, ils vont se faire poutrer la gueule. Bah, au bout d'un moment, je comprends que tu vas désespérer, que tu vas te dire, putain, mais c'est n'importe quoi ce jeu-là. Et même moi, en tant que joueur des Souls depuis un certain moment, je me suis dit, mais la difficulté de ce jeu est complètement aberrante.
Et ça a d'autant moins de sens que, comme on disait tout à l'heure, ils ont fait en sorte de faire des choses beaucoup plus claires, de prendre le joueur par la main, et qu'en plus, derrière, ils ont fait aussi, je trouve, une histoire qui est plus accessible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, t'incarnes un personnage qui parle, bon, il parle pas beaucoup, hein, mais...
Ouais, c'est comme 47, quoi, tu sais, c'est...
Moi, je comparerais plus à Kratos, en fait, tu vois, dans la relation qu'il a avec le gamin, etc. Enfin, moi, il m'a vraiment fait penser au Kratos de God of War, mais à la japonaise, hein. N'est-ce pas? Mais je trouve que ils te prennent par la main pour tout ce qui est introduction au jeu, etc. Ils te prennent par la main aussi sur ce qui est l'histoire, c'est-à-dire qu'en gros, t'as un objectif qui est clair, t'es guidé tout le long du jeu, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils essayent d'être plus accessible aux noobs, entre guillemets, mais ils leur mettent un mur au début du jeu. Mais pourquoi?
Voilà.
Ça n'a pas de sens. On dirait que ils ont essayé de rendre leur jeu, attention gros mot, plus grand public.
Ouais.
Mais au dernier moment, ils se sont dit « Oh merde, attends, mais ils vont pas un peu gueuler nos joueurs hardcore, là, du coup, il faudrait peut-être qu'on mette un truc bien dégueulasse pour que ils se sentent comme dans leurs chaussons. » Sauf que ces trucs bien dégueulasses, bah, je trouve qu'ils collent pas avec l'expérience globale du jeu.
Ouais, et puis aussi, tu vois, par exemple, le lore, qui est beaucoup plus simple à comprendre, mais en même temps, il a aussi le cul entre deux chaises, parce que des fois, il veut juste pour un simple bonbon, il va te faire tout un texte explicatif de d'où il vient ce bonbon, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, et tu te dis, en fait, ils ont essayé d'apporter des choses plus simples à comprendre, mais en même temps, ils ont toujours voulu garder un petit peu, tu vois, le mystère de l'univers et ce qui se passe autour. Et
T'as l'impression, en fait, voilà, c'est ça. Je sais ce que... En fait, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas trop dépayser les joueurs de Dark Souls quand même, tu vois.
Ouais.
Ok, on va vous foutre un coup de pied au cul sur le système de combat, tu vois,
ouais.
Mais le reste, vous inquiétez pas, sur le reste, on va vous cajoler, hein. On va pas faire un jeu trop différent pour que vous alliez pas dire oh là là, France Software c'est nul, ils font plus Dark Souls, tu vois. Mais vraiment, par moment j'avais cette impression là, j'ai eu l'impression qu'ils avaient peur de faire un jeu réellement extrêmement différent. Alors c'est pas le même jeu que Dark Souls, mais il y a des moments où j'avais l'impression qu'ils mettaient du Dark Souls pour faire du Dark Souls, quoi, en fait.
Ouais, et ça c'est un petit peu dommage, mais après bon, il y a quand même des points positifs. Moi je pense à faire du Dark Souls pour du Dark Souls. Voilà, je voulais en venir, tout à fait. Je pense que les mecs ils sont connus pour leur level design, et Tyran, vas-y, je te laisse en parler, parce que je pense que t'es un grand amateur de ce qu'ils arrivent à faire.
Bah alors c'est pas compliqué en fait, ce jeu c'est le même level design que Dark Souls 1, sauf que tu rajoutes la verticalité. Et ça change tout, parce que du coup t'as des trucs qui sont cachés. Dark Souls t'explore, mais t'es quand même sur un pan qui est assez plat. Bon, c'est pas vrai tout le temps, mais là, le fait que tu rajoutes la hauteur, ça fait que tu regardes dans toutes les directions et t'es beaucoup plus alerte sur ce qui se passe dans les environnements. Et c'est beaucoup plus plaisant en plus de se balader grâce aux grappins, etc. Enfin, moi, j'ai eu un véritable plaisir d'explorer dans ce jeu grâce aux grappins, qui fait que t'es tout le temps là à regarder partout, mais vraiment partout, pour essayer de trouver des trucs cachés, etc. Bien plus que dans Dark Souls, en fait.
Et le grappin, pour ceux qui ont joué à la série des Batman Arkham, il s'utilise un peu de la même manière. C'est-à-dire, il y a un point qui va apparaître, et vous appuyez juste sur la touche à un moment, pour que vous, Sekiro, qui est le personnage du jeu, puis se téléporter sur le point d'accès et tout. Et c'est vrai que moi, le level design, je trouve franchement réussi, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que t'as l'impression que le level design, il est circulaire, qui en fait tout tourne autour d'un niveau. Ils ont réussi à construire tout le jeu par rapport à un niveau central. Ça, c'est un truc, franchement, voilà, ils savent faire depuis le début.
Qu'ils n'avaient pas fait depuis un certain nombre d'années, quand même, hein, parce que Bloodborne, c'est pas tout à fait ça, hein, n'est-ce pas?
Bah, non, mais Bloodborne et Dark Souls 3, pour moi, le level design, il est bon, c'est juste qu'il est différent.
Ouais, mais non, mais il est différent, mais là, ça faisait des années, tu sais, qu'on réclamait un peu cette structure. T'as un peu le vertige, tu sais, parce que tu te rends compte que t'as fait tout ce chemin-là, et que tu retombes là, tu fais, waouh, le monde, il est vraiment... Enfin, tu sais, t'as pas l'impression d'être dans un couloir, en fait, alors que c'est des couloirs. Mais c'est un level design qui est tellement bien penser que t'as vraiment l'impression d'être dans un monde cohérent.
Ouais, c'est ça. Alors que, comme tu dis, les autres, c'est t'as l'impression en fait d'être dans un monde cohérent, mais découpé en mini-zones, et que pour revenir en fait à la zone du début, t'es obligé de faire tout un chemin. Alors que là, l'illusion, elle fonctionne bien, parce qu'au début, quand on te dit oui, il faut descendre dans la vallée engloutie, tu te dis putain, mais comment je vais faire pour aller là-bas? Ça doit être ultra long et tout.
Moi, c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que toi, tu t'es demandé comment t'allais faire pour aller là-bas. Moi, j'y suis allé direct. Dès le début, tu peux aller faire des trucs qui normalement sont pour plus tard, en fait. Et ça, c'est cool. C'est ça le plaisir des jeux From Software, c'est explorer, te retrouver à des endroits où t'es pas censé être. Tu sais que t'es pas censé être là, mais tu prends du plaisir parce que, voilà, tu dis, moi, je fais pas les choses comme les autres, je vais explorer.
Mais moi, ce que j'ai fait aussi au début, c'est-à-dire que au tout début, j'étais allé dans un endroit où je devais pas aller théoriquement dès le début. Il y avait des ennemis qui me faisaient très mal et qui me faisaient peur. J'ai fait bon. Je vais y revenir plus tard, hein, parce que là, je pense que je vais prendre cher. Mais c'est vrai que t'as toujours le plaisir de la découverte, même dans un lieu que t'as déjà visité, parce que moi, j'ai fait le jeu deux fois. La première fois, j'avais fait sans solus et tout. Et la deuxième fois, j'avais regardé juste pour débloquer les différentes fins et tout. Mais comme j'avais refait le jeu, le level design, je l'ai traversé, on va dire, très vite, comme si j'étais Spider-Man au Japon, au féodal, quoi. Et du coup, des fois, je suis arrivé dans des endroits, je fais, ah, mais... Ok, d'accord, il y avait ça qui était là. Et ça, j'ai fait, ah, ok, bon, très très sympa. Mais...
Alors que moi, tu vois, je l'ai exploré en mode, je regarde tout. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejeté, mais moi, c'était tout le contraire, quoi. Je passais trois plombes dans les zones pour trouver le moins de petits secrets, le moins de petits trucs, et ça, c'était mon plaisir dans ce jeu-là, tu vois. Et c'est ça qui fait que j'ai terminé, d'ailleurs. Parce que très honnêtement, hein, s'il y avait eu que les combats, moi, j'aurais arrêté le jeu. Mais par contre, ce qui m'a posé problème dans ce jeu, pour moi c'est un défaut, mais ça ne sera pas pour tout le monde, je pense, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'ennemis relous. On va parler de mini-boss pour le coup, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ennemis à, on en parlait tout à l'heure, avec deux barres de vie.
Ouais.
Ils en ont mis partout. Et du coup, moi j'ai trouvé que bah ça gâchait un peu le plaisir d'explorer, quoi. Parce qu'il y a des moments, t'aurais envie d'explorer peinard, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement agacé aussi, hein. Donc je sais la tendance que ce jeu a réutilisé des assets juste pour avoir le plaisir de te remettre le même ennemi.
Ouais.
Franchement, les mecs, si vous aviez mis moins d'ennemis, ça aurait pas mangé de pain non plus, hein.
C'est ça. On est, Alors, des fois, t'as l'impression qu'ils ont dit, là, on a un terrain, il est vide, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, tu refous le boss qu'il a déjà battu 5 heures plus tôt, tu le remets là, et puis en plus fort, quoi.
Alors, c'est déjà arrivé que dans les sous, ils réutilisent des ennemis, même que des boss se retrouvent en ennemis de base.
Ouais.
Mais là, je trouve que c'est
abusé.
C'était
beaucoup moins présent que dans Sekiro. Par exemple, moi, je pense au premier Dark Souls. Les deux boss qui me reviennent en tête que tu retrouves comme ennemis de base, c'est le taureau que tu rencontres au tout début du jeu et vers la fin du jeu, tu les revois. Il y en a pas mal, hein.
Ouais, le Capra, voilà,
et
Demon,
le
Capra,
et le Capra Demon. Mais là, dans Sekiro, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je battais un ennemi, j'allais le revoir une autre forme plus tard.
Le color swap, n'est-ce pas, TH?
Voilà, les color swap des beaux beat'em all de l'époque. Et t'as l'impression vraiment que le jeu, en fait, c'est Cuphead, quoi. Cuphead, c'est un boss rush quasiment. Et là, t'as l'impression que c'était dans un jeu comme ça, quoi. Si tu veux vraiment tracer.
Bon, après, limite tracer, tu peux tracer, tu vois.
Ouais.
Là où ça commence à poser un problème, je trouve, c'est quand tu veux explorer. J'avais limite l'impression, en fait, qu'il mettait ça pour te ralentir.
Ouais, voilà. Mais c'est
genre,
ça, en fait.
Genre, tu te sens obligé d'aller tuer ce truc. Parce que, en plus, ces trucs, t'en as besoin. C'est ça le problème. C'est que ces mini-boss, là,
oui,
ils te donnent des perles. Une fois que t'en as quatre, tu peux augmenter ta vie. Et Dieu sait que la vie, t'en as besoin dans le jeu. Du coup, en plus, tu te sens quasi obligé d'aller les tuer, même si tu rushes.
Ouais.
Parce que, au début, comme tu maîtrises pas le jeu, tu te dis, putain, mais la barre de vie, j'en ai besoin. Moi, il me la faut, tu vois. Donc, du coup, même si t'as pas envie, comme t'es pas un cador comme certains joueurs, bah tu dis ouais mais va quand même falloir que je le tue parce que il me faut le maximum de perles que je puisse trouver pour augmenter ma vie, quoi, tout simplement.
Ouais, bah ça d'ailleurs, heureusement qu'ils ont donné ces items là, ces boss là, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient dit c'est trop dur et du coup ils auraient contourné le boss.
Ouais, mais
et...
tu vois, j'aurais préféré qu'ils fassent moins de machins comme ça.
Oui, oui.
Mais que par exemple au lieu de 4 perles, il en faille 2.
Ouais.
Je sais pas, mais et, voilà.
Enfin, un boss emblématique qui lui te donne une perle qui augmente ta barre de vie directement, quoi. Ou même pourquoi pas, tu sais, comme dans le premier Metal Gear, à chaque fois que tu affrontais un boss, ta barre de vie augmentait directement après le combat du boss pour te dire que ton personnage devenait plus fort. Et là t'as l'impression que voilà, des fois t'as dit c'est pour ralentir le joueur, et comme le joueur se dit putain mais ce boss là il a une perle de chapelet qu'il me faut, bah je vais aller le buter parce que si j'arrive à la fin du jeu comme ça, bah ça va être plus dur que pour moi. Et le fait aussi qu'on pour revenir sur la partie level design, je trouve qu'il y a aussi la réutilisation de certains niveaux. Le niveau central, par exemple, on y retourne 2-3 fois dans le jeu, tu vois.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage.
Alors, t'as 2-3 détails qui changent, mais honnêtement, ouais, c'est anecdotique,
okay,
quoi.
Il y avait un poteur qui était à droite, tu reviens, il est à gauche, tu vois. C'est genre, et les ennemis sont plus forts et tout. Mais la troisième fois que je suis revenu, j'ai fait, non, mais putain, j'ai pas envie de revenir dans ce niveau encore une dernière fois.
Et ça fait vraiment étirage de sauce.
C'est ça, voilà.
Ouais, on va nous critiquer parce que le jeu est trop court, donc, voilà, on fait en sorte qu'il soit plus long, quoi.
Voilà, et ça c'est un problème que n'avaient pas forcément en fait les autres jeux From Software. Tu avançais et puis à chaque fois t'avais soit l'impression de t'enfoncer un peu plus dans le monde, ou soit de découvrir un nouveau paysage, un nouveau décor. Et c'est ce qui me donnait envie de, tu vois, d'avancer dans les jeux From Software, parce que moi ce que j'apprécie le plus c'était la direction artistique.
Bon, sauf Isalith qui ne servait vraiment à rien pour le coup, quoi, n'est-ce pas?
Non, mais c'était quand même joli visuellement, quoi. Donc
enfin, c'est une zone qui ne sert à rien, quoi. Tu as les vides, y a rien, quoi.
Non, mais moi j'aimais bien faire mon tourisme. Ah non, non. Ah, excuse-moi, si tu parles d'Isalith dans le premier Dark Souls.
Oui.
Ouais, non, mais parce que moi j'ai confondu en fait avec Dark Souls 3 Anne Orlando, tu vois. Enfin, parce
Non. Okay. Là, je parle vraiment de la zone de lave où t'as des ennemis qui sont même pas finis, où tu vois que les mecs ils t'ont foutu ça, tu dis mais vous foutez de ma gueule, quoi.
Oui, elle est dégueulasse cette zone, ouais, qui pique les yeux d'ailleurs. Et je pense qu'on peut aller à la conclusion, Jean-Pierre, non?
Juste un dernier point, par contre, un autre truc qui m'a déçu, moi, c'est la musique. Parce que autant toute la partie bruitage, etc., elle est extraordinaire. Tu sens vraiment l'impact des coups, etc. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose qu'il maîtrise avec maestria, je trouve, ce jeu. Quand tu tapes les ennemis et que tu les transperces de ta lame, ah, tu sens bien la lame qui transperce et t'as du plaisir à le faire, tu vois.
Ah oui.
En m'entendant parler, je me dis, putain, les mecs qui sont sortis de son contexte, on dirait, ah, putain de sadique, tu vois.
Tu vas passer sur BFM TV bientôt, le tyran a été attrapé après un discours, et tu sais, ils vont passer juste ce passage-là, tu vois.
Et, autant cette partie-là, elle est vachement réussie.
Ouais.
Autant par contre, la musique. Alors pour le coup, on est encore une fois dans l'anti-Dark Souls, c'est-à-dire que t'as de la musique tout le temps. Tu fais pas très attention parce qu'elle est pas forcément hyper marquante non plus, tu vois.
Ouais.
Mais à la limite, tu vois, ce serait que pour les niveaux, je dirais, bon, ouais, de toute façon, la musique, elle fait le taf, hein. Honnêtement, elle rend bien l'ambiance. Mais là où ça commence à me poser problème, c'est que là, j'ai fini le jeu, c'est tout frais, et je me souviens d'aucune musique de boss, par exemple. Ce qui était quand même jusque-là la marque de fabrique des jeux From Software.
Ouais, bah là, je suis sûr que je te repasse une musique.
Il
n'y
a aucun boss dont je
jeu,
me souviens du thème, quoi. Il n'y a aucun boss qui a un thème aussi emblématique que celui de Gwen.
Je te rejoins totalement sur cet aspect-là du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, c'est des musiques qui font le travail, mais c'est pas des musiques marquantes pour autant. Je suis quasiment certain que je passe une musique d'un niveau ou d'un boss dans Sekiro. Je sais même plus à quelle zone ça correspond. Alors que, au contraire, je passe des musiques de Bloodborne ou de Dark Souls. Je sais à quel boss elle appartient. Enfin, pour les plus marquants, en tout cas, tu vois, encore aujourd'hui. Je sais pas, il y a pas un élément marquant qui va me revenir en tête. Parce que même l'écran titre, j'ai même pas de souvenir s'il y a un thème du jeu. Alors que dans un ancien jeu, il y avait le thème principal qui était marquant. Quand tu arrivais au boss final, t'avais cette, par exemple, dans Dark Souls premier du nom, t'as cette musique au piano qui est juste magnifique. Encore, on s'en rappelle aujourd'hui. Il y a plein de boss comme ça que je peux citer et te dire à quoi correspond la musique et qu'est-ce qu'elle apporte. Parce que les musiques dans les anciens jeux, elles étaient là aussi, tu sais, pour importer l'émotion ou bien le caractère du personnage. Et c'était quelque chose qui était très bien fait. Et là, je me suis dit, putain, c'est dommage parce qu'on a un jeu qui se passe au Japon féodal. On aurait pu avoir des instruments totalement différents et faire un truc de fou, quoi. Et c'est dommage qu'en fait, sur cette partie-là, ils ont un petit peu pêché, quoi.
Bah, surtout que c'est quand même le studio qui a fait Tenchu. Moi, je me suis désolé, je me souviens encore de musique de Tenchu, quoi. Onikage, il avait des musiques qui tuaient, quoi, par exemple. Les musiques de combat de boss dans Tenchu, elles déchiraient. Là, j'affine le jeu, je me rappelle plus des musiques. C'est quand même un petit problème, quoi. Bon, ATH, sinon je te propose qu'on arrive à la conclusion, n'est-ce pas? Moi, la conclusion que je voudrais faire, c'est que, bon, France Software, allez, c'est quand vous le lancez, là. C'est quand vous faites Castlevania, en fait. Non, parce que jusqu'à maintenant, les jeux France Software, ça avait de la structure de la Metroidvania, mais c'était pas vraiment des Metroidvania. Là, de plus en plus, on s'en approche dangereusement, et je me dis, franchement, France Software, vous tenez quelque chose, là. Allez négocier avec Konami. Si vous pouviez faire un Castlevania, surtout avec le talent que vous avez pour faire des décors gothiques, je signe, mais alors, tout de suite. Alors, sinon, pour quand même s'attarder un peu sur ce jeu-là, moi, j'ai passé un bon moment dessus, hein, sinon je l'aurais pas fini. Mais je t'avoue que, personnellement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un jeu grandiose. Moi, je suis désolé, ça sera pas mon jeu de l'année, ça c'est sûr. J'ai passé un très bon moment dessus, hein, mais il y a beaucoup trop de choses qui m'ont frustré dedans. Il y a beaucoup trop de défauts inhérents au jeu From Software qui font que, bah, ouais, j'ai passé un bon moment, mais peut mieux faire.
Je te rejoins aussi hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, en fait, avec les jeux From Software, c'est un petit peu l'escalade ces derniers temps. C'est-à-dire que Dark Souls 3, j'ai vraiment kiffé parce que les combats de boss étaient juste magistral. Bloodborne avec son ambiance gothique, je me suis vraiment perdu dans Your Name et j'avais vraiment apprécié. Et là, Sekiro, je me dis, ok, c'était bien, mais ouais, tu vois, genre, je me suis dit, putain, ça aurait pu être un truc totalement génial. Mais bon, c'est une nouvelle licence et peut-être que tout comme Demon's Souls a créé Dark Souls, pourquoi pas un Sekiro 2 qui justement corrigerait les défauts du premier et qui justement mettrait une claque magistrale.
Ouais, mais est-ce qu'ils vont les corriger les défauts alors que tout le monde leur dit ouais, votre jeu c'est sensationnel, c'est parfait. Quand j'ai lu les critiques, mais j'avais vraiment pas l'impression d'avoir joué au même jeu, quoi. Le peu de défauts qu'on accepte de reconnaître au jeu, comme la caméra, c'est toujours présenté comme des défauts mineurs alors que non, enfin c'est pas mineur, quoi.
Ouais, mais voilà. Après voilà, ça c'est ce que je t'ai dit, c'est que t'as l'impression que c'est From Software et du coup ils ont un peu le totem d'immunité. Ça aurait été Electronic Arts ou Ubisoft, les gens ils auraient gueulé sur les forums et tout, regardez, ils font de la merde et tout. Et par exemple tu vois Rockstar aussi, eux ils peuvent faire des conneries et tout, et les gens ils disent ouais mais bon c'est Rockstar et tout, ils font des bons jeux donc on va pas trop leur attraper dessus. Et tu vois t'as l'impression en fait des fois il y a des studios sur certaines choses, hein, je parle pas à chaque fois de tout, mais ils ont certaines immunités sur certains points précis. Et ce serait bien qu'on commence à déjà à se mettre d'accord sur le fait que il y a certaines normes que le jeu vidéo doit respecter et que les éditeurs et les développeurs appliquent à leur jeu, et c'est pas en fonction de leur budget ou bien de certaines choses. Après on pourra peut-être pardonner plus facilement un élève qui tombe alors que le mec il a toujours bien travaillé tout au long de l'année, bah tu dis bon c'est encourageant donc on va faire un effort vers eux. Mais après si tu vois que c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent sur d'un jeu à un autre et tout ça, moi je pense vraiment que From Software ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient faire en termes techniques, tu vois. J'ai l'impression qu'ils vont rester enfermés dans ce carcan-là. Ils ont eu du succès. Leurs jeux, c'était des jeux de niche à la base. Là, c'est des jeux, entre guillemets, niche, grand public, tu vois. C'est un peu le jeu entre les deux. C'est un peu des double A. Et ça serait bien, justement, qu'ils arrivent à corriger certains
défauts. Tu sais ce qu'il faudrait leur faire faire?
Il faudrait faire quoi?
Un stage chez Nintendo. Non, mais sérieusement. En fait, il faudrait qu'ils développent une excuse pour Nintendo pour que Nintendo les force à apprendre ce que c'est une vraie caméra et des Xbox, quoi. Parce que pour le coup, Nintendo, on peut reprocher beaucoup de choses, mais ils savent faire ça. Hein.
Ouais, et puis même, en général, les gens, ils râlent pas sur la finition des jeux, tu vois. Ils râlent sur le jeu en lui-même. Par exemple, Mario Odyssey, le jeu est trop simple et tout. Mais tu sais, ils disent pas, putain, ouais, la caméra dans Mario Odyssey, elle est naze. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas entendu personnellement. Mais c'est vrai que... Tu vois, From Software, je pense qu'il y a un moyen qu'ils deviennent un très bon studio. On leur a donné vraiment toutes les cartes en main pour qu'ils réussissent et tout. Personnellement, je les ai soutenus, j'ai acheté leurs jeux et tout. J'aime beaucoup ce studio, mais j'ai pas envie de faire la personne qui est aveugle et qui voit pas en fait ce que Sekiro a fait. C'est-à-dire que Sekiro, ce qu'il a fait, c'est un très bon jeu. Hein, y a pas de souci. Comme tu l'as dit, je l'ai fini et tout.
Et puis même, ils ont quand même, ça y est, ils sont enfin détachés de Dark Souls, quoi. Même si c'est dans la douleur, même s'ils hésitent, c'est quand même différent de Dark Souls. Ça, j'insiste là-dessus. Hein. C'est quand même différent, tu vois. Et ça fait du bien qu'il soit un tout petit peu passé à autre chose. Alors, il y a encore du chemin à faire, mais il y a du progrès.
Non, mais même, tu vois, tu te dis quand même ce qu'ils arrivent à faire en termes de level design et tout. C'est quand même assez incroyable aujourd'hui dans les jeux en 3D, parce qu'en général, tu vois, quand tu joues à d'autres jeux en 3D, il y a quasiment personne qui arrive à faire ce que fait From Software en termes de level design. Mmh. Sur cette qualité-là, tu vois, ils sont vraiment excellents. Mais ce qu'on a cité, les problèmes de caméra et tout ça, là, tu vois quand même qu'ils pêchent pas mal. Et tu te dis, bon, c'est bien, les gars, mais juste sortez-vous les doigts.
Il va falloir commencer à vraiment réfléchir à vos défauts.
Ça, voilà. Mais sinon, voilà, j'ai pris un plaisir sur le jeu que j'ai trouvé juste en dents de scie, la difficulté au début trop dure et puis à la fin plus simple en tout cas. Mmh. Faut pas que les gens se découragent par rapport à Sekiro. Je pense que vraiment, la difficulté, elle est surmontable pour tout le monde. C'est juste si vous avez le temps de vous investir et si vous avez envie. Moi, je sais très bien que Mordred n'aurait pas la patience ni le temps de pouvoir le faire. Donc, comme je lui ai dit, franchement, Sekiro, oublie. Contrairement, tu vois, un Dark Souls, je suis sûr que il pourra plus le faire. C'est des jeux qui sont quand même assez difficiles. Mais c'est pas la même difficulté, tu sens qu'il y en a un qui est un peu plus injuste. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait chier, en fait, tout au long de Sekiro, c'est que je me dis, des fois, c'était injuste, mais pour rien, et c'est là où, pour moi, ça pose un problème, quoi.
Ouais.
Enfin, bref.
Rien à ajouter. Allez, on va s'arrêter là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut et jouez bien.